10 jours avant les vacances de Noël dans une petite ville de Pennsylvanie. Une jeune mère est enthousiaste à l'idée que son bébé célébrera son premier Noël. Mais tout cela tourne à la tragédie avec la disparition subite de la mère et de l'enfant. Les détectives soupçonnent le mari, mais sans preuve, il doit faire appel au FBI pour trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard. Catasauqua en Pennsylvanie aux États-Unis, une heure de route au nord de Philadelphie. C'est un endroit paisible pour y élever une famille. Le 15 décembre 1994, la population entière se préparait pour le temps des fêtes qui approchait à grands pas. Les décorations avaient déjà été installées au 740 Front Street. C'était la maison de Joanne Katrinak, 26 ans, mariée et mère depuis peu. Elle était ravie de célébrer Noël pour la première fois avec le petit Alex, 4 mois. Joanne et sa belle-mère, Veronica, avaient prévu passer la journée à faire des courses au centre commercial tout près. Joanne l'appela pour l'aviser que le petit Alex était habillé et prêt à partir. Il serait chez elle dans un moment. Joanne voulait trouver le cadeau parfait pour son mari Andy. Ils étaient mariés depuis un peu moins de 2 ans. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais Joanne avait fait quelques économies en vue des fêtes. Avant de rencontrer Andy, elle avait eu quelques mauvaises expériences amoureuses. Son premier mari la battait. Leur mariage s'était soldé par un divorce. Mais aujourd'hui, elle avait enfin trouvé le bonheur. Andy Katrinak rentra à la maison un peu après 18h le même jour. Il était entrepreneur et il lui arrivait souvent de rentrer plus tard à la maison. Avant de rencontrer Joanne, Andy était un célibataire endurci. Sa rencontre avec cette jolie jeune femme avait changé sa vie. En général, Joanne et Alex étaient à la maison lorsqu'ils rentraient. Mais pas ce soir-là. Cela n'inquiéta pas Andy outre mesure. Après tout, Noël approchait et Joanne était peut-être coincée dans un embouteillage. Il remarqua qu'elle avait mis du poulet à dégeler. Il s'assit tranquillement et les attendit. Une heure s'écoula, puis une autre. Andy n'était pas vraiment inquiet. Il regardait la télévision en buvant une deuxième bière. À 20h, il décida tout de même de faire quelques appels. Il commença par appeler Veronica, sa mère.
Hey, Mom. C'est Joanne.
Il savait que Joanne et elle avaient prévu faire des courses ensemble, mais sa mère lui dit qu'elle ne l'avait pas vue de la journée. Veronica avait appelé à la maison à plusieurs reprises, mais n'avait pas obtenu de réponse. Elle était très inquiète. Son mari Andrew et elle se rendirent immédiatement chez leur fils. Pendant ce temps, Andy fit le tour de la maison pour voir s'il manquait quelque chose. Dans le sous-sol, il découvrit que la porte qui menait à l'extérieur était ouverte. Pourtant, ni lui ni Joanne ne l'utilisaient. La serrure avait été arrachée du cadre. Il appela immédiatement la police. Deux agents de la police de Catasauqua répondirent à l'appel. Les parents d'Andy étaient là à leur arrivée. Andy relata les événements de la journée. Le déplacement au centre commercial, qui apparemment n'avait pas eu lieu, la disparition, enfin, de Joanne et du petit Alex. Il craignait que Joanne et Alex aient été enlevés. Un des agents déclara que c'était une possibilité. Mais il était également possible que Joanne ait décidé de quitter son mari et qu'elle soit partie avec l'enfant. Une troisième hypothèse était qu'Andy soit impliquée dans la disparition. Véronica décrivit sa conversation téléphonique avec Joanne et ses appels répétés par la suite, sans réponse. Andy montra ensuite à la police la serrure arrachée de la porte du sous-sol. Pour tout de suite, rien ne démontrait que cela avait quelque chose à voir avec la disparition de Joanne et du bébé. Andy resta près du téléphone toute la soirée et la nuit pendant que son père fouillait les environs à la recherche de Joanne et Alex. À 3 heures du matin, il rentra pour signaler à son fils qu'il avait trouvé quelque chose. La Toyota brun clair de Joanne était garée à reculons dans un espace de stationnement de la taverne McCarthy's au bout de la rue. À l'intérieur du véhicule se trouvaient les clés de Joanne et une canette de gaz incapacitant. Andy appela la police de Catasauqua à nouveau pour les aviser. Cette fois-ci, les agents de police suspectaient quelque chose de louche. Malheureusement, ils ne disposaient pas des ressources ni de l'expérience nécessaire pour mener cette enquête. Ils se tournèrent vers la police d'État. Le major Robert Wirtz concentra immédiatement son attention sur le suspect le plus près de la victime, Andy Katrinak, le mari de Joanne.
Nous avons commencé par examiner le quotidien de la famille. Nous avons examiné les activités d'Andy ce jour-là. Dans ce type d'enquête, nous sommes obligés de commencer nos recherches du côté des membres de la famille.
Des agents de la police d'État arrivèrent à la maison d'Andy le lendemain matin. Andy mentionna qu'au cours de la nuit, il avait remarqué autre chose. La ligne de téléphone avait été coupée dans le sous-sol. Il y avait deux lignes téléphoniques. Celle qui avait été coupée était celle du téléphone sans fil de la maison. L'autre était reliée à l'appareil de la cuisine. Pour les enquêteurs, il était évident que l'individu qui l'avait coupée savait où la trouver et laquelle couper. L'équipe d'experts de la police d'État trouva également l'empreinte partielle d'une semelle de botte sur le sol et des marques d'outils sur le cadre de porte où la serrure avait été arrachée. Les experts fouillaient la maison. Pour le moment, rien n'éliminait la possibilité qu'Andy soit le coupable. Dans la chambre à coucher du couple, rien ne laissait croire que Joanne prévoyait partir pour longtemps. Andy confirma que rien n'avait disparu de la penderie de sa femme. Les valises du couple se trouvaient sous le lit comme d'habitude. Il n'y avait aucune trace de sang ni rien qui permettait de présumer qu'un acte criminel avait été commis. Les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales au point d'entrée de la pièce, mais il n'y avait que celles d'Andy et de Joanne. Dans la chambre du bébé, rien n'indiquait non plus qu'on prévoyait une absence prolongée d'Alex. Il n'y avait pas de traces de lutte, ni de cambriolage. Au garage de la police d'État, des experts examinèrent le véhicule de Joanne. Ils espéraient qu'un indice leur donnerait une piste pour retrouver la mère et l'enfant. Sur l'appui-tête du siège du conducteur, il y avait 6 cheveux blonds. L'un d'eux était recouvert d'une substance rouge foncé qui ressemblait à du sang. Il n'y avait aucun autre indice, sauf peut-être la façon dont le véhicule avait été garé. L'agent Bob Egan menait cette enquête.
Certains détails avaient conduit Andy Katrinak à croire que ce n'était pas sa femme qui avait garé le véhicule à reculons. Premièrement, elle n'avait jamais garé sa voiture dans ce stationnement puisqu'ils en avaient un derrière la maison. Deuxièmement, elle ne garait jamais son véhicule à reculons parce qu'elle avait de la difficulté à le faire.
Sans nouvelles de Johan ou de son ravisseur pendant 3 jours, les agents décidèrent de fouiller le passé d'Andy. Il paraissait inquiet lorsqu'il parlait du temps où il était boxeur semi-professionnel à Las Vegas. Il avait un certain talent pour la boxe et gagnait sa vie comme instructeur avant de déménager en Pennsylvanie. Il était maintenant entrepreneur, mais avait du mal à joindre les deux bouts. Avec une maison, une femme et maintenant un enfant, ses ressources s'épuisaient rapidement. Les enquêteurs demandèrent à voir ses rapports financiers, ses documents d'assurance, relevés bancaires et téléphoniques. Il déclara que sa femme n'avait qu'une petite assurance vie. Le jour de la disparition de Joanne et de leur fils, Andy était avec son père à construire une annexe chez un client qui vivait à quelques kilomètres de chez lui. Les enquêteurs n'étaient pas satisfaits de cette réponse. Ils lui demandèrent de se soumettre au détecteur de mensonges. Lors du test, Andy démontra qu'il n'avait pas menti concernant la disparition de sa famille. Son nom fut retiré de la liste des suspects. Johan et Alex avaient disparu depuis 4 jours et les détectives n'avaient toujours pas de piste. Qu'il se soit agi d'un départ volontaire ou d'un enlèvement, il était possible que la jeune femme ait quitté la Pennsylvanie. Le 19 décembre 1994, la police d'État demanda l'aide du FBI. L'agent spécial Dave Rowe du bureau de Allentown se joignit à l'enquête.
We began our investigation by identifying, locating.
Nous avons commencé l'enquête par l'identification et l'interrogatoire de pratiquement tous les parents, les amis et les anciens collègues de travail, c'est-à-dire tous ceux qui étaient parents ou qui connaissaient Andy, Joanne et Alex de près ou de loin.
La police locale, la police d'État et le FBI mirent leurs ressources en commun pour tenter de retrouver cette jeune mère et son enfant. 6 jours avant Noël, il semblait bien qu'ils avaient disparu sans laisser de traces. Joanne Katrinak, une mère de 26 ans, et son fils Alex de 4 mois, avaient mystérieusement disparu de leur maison de Catasauqua, en Pennsylvanie. Andy, le mari de Joanne, avait été écarté de la liste des suspects potentiels. Les enquêteurs se rendirent au New Jersey interroger l'ex-mari de Joanne. Mike Jack avait épousé Joanne en 1991. Ils avaient divorcé quelques mois plus tard. Joanne avait déclaré que son mari la battait. Il était possible que Joanne ait décidé de reprendre avec lui ou encore que Mike veuille la reconquérir. Les enquêteurs découvrirent cependant que Jack avait un alibi solide le jour de la disparition de Joanne. Ils retracèrent également des amis d'Andy, notamment son ex-petit ami, Pat Rohrer. Un agent du FBI interrogea cette dernière chez elle, en Caroline du Nord. Elle disposait également d'un bon alibi le jour de la disparition de Joanne et d'Alex. Les policiers de Catasauqua retournèrent à la taverne McCarthy's où le véhicule de Joanne avait été découvert. Peut-être quelqu'un l'avait-il aperçu, elle ou quelqu'un d'autre garait le véhicule. Les agents interrogèrent tous ceux qui s'étaient trouvés à la taverne au cours de cette journée, mais personne n'avait rien vu d'anormal. Le quartier des Katrinak fut également fouillé méticuleusement. Une voisine leur indiqua la maison d'un homme à tout faire qui louait une chambre au bout de la rue. Ce dernier avait effectué des réparations dans plusieurs maisons du coin. Les détectives découvrirent bientôt que cet homme avait déjà été accusé d'entrer par effraction à quelques reprises par le passé. C'était un suspect prometteur. L'homme reconnut qu'il avait eu des démêlés avec la justice, mais il déclara ne pas être au courant de la disparition de Joanne et du bébé. Il accepta de se rendre au poste pour y subir un interrogatoire. Pendant l'été, l'homme à tout faire vivait dans un appentis au bord d'une rivière près de la maison des Katrinak. La police d'État fouilla les lieux à l'aide de chiens pour tenter de découvrir si Joanne et le bébé s'y étaient trouvés. Il n'y avait rien. L'homme à tout faire n'était pas impliqué dans cette disparition. La police était à nouveau dans l'impasse. Plus le temps passait et plus la police et la population étaient inquiètes. Le major Robert Wirtz participa à la mise sur pied d'une ligne téléphonique et encouragea le public à transmettre toute information pertinente.
La population était préoccupée par cette disparition. Nous avons donc établi un poste de commandement et installé des lignes téléphoniques ici au quartier général. Nous avons ensuite transmis les numéros de ces lignes au public pour obtenir des informations.
Les gens appelaient pour transmettre ce qu'ils avaient vu. L'un d'entre eux déclara avoir aperçu Joanne près de la voie ferrée derrière chez elle en compagnie d'un inconnu. Elle avait un bébé dans les bras et semblait effrayée. Le ravisseur l'attirait de plus en plus profondément dans les buissons. Suite à cet appel, les agents du FBI et la police d'État organisèrent une battue sur une distance de 6 km le long de la voie ferrée. Les recherches se poursuivirent au cours de la nuit. Le secteur fut examiné au centimètre près pendant que des hélicoptères survolaient les environs. Malheureusement, ce fut en vain. L'agent Joe Kosvar était alors le second de Bob Egan. Il y eut d'autres appels importants par la suite.
On avait vu la jeune femme près de la voie ferrée. On l'avait vue à bord d'un avion. Certains disaient qu'elle était dans une épicerie avec son enfant. Mais nous n'avons pas pu vérifier une seule de ces déclarations. C'était des fausses pistes. Apparemment, ces personnes s'étaient méprises sur l'identité de la femme qu'elles avaient vue.
La période des fêtes s'acheva et bientôt le printemps revint, sans nouvelles de Joanne ni d'Alex. Le 9 avril, un fermier labourait son champ à Heidelberg, à 20 km au nord-ouest de Catasauqua. Il aperçut un tas de vêtements au bout du champ. En s'approchant, il constata à sa plus grande consternation qu'il s'agissait de restes humains. Le FBI et les agents de l'État se rendirent immédiatement sur les lieux. On confirmerait bientôt, grâce au dossier dentaire, que les corps étaient ceux de Joanne et d'Alex Katrinak. Joanne gisait sur le dos, un sac contenant des couches encore accroché à son épaule. Elle avait reçu un projectile à la tête et avait été frappée au visage à plusieurs reprises. L'enfant était couché, le visage contre le ventre de sa mère. Il portait l'ensemble bleu qu'elle lui avait mis pour aller voir sa grand-mère. Leur corps était à 20 mètres d'un sentier qui traversait la forêt. Les experts découvrirent dans les environs un biberon et un hochet. Pour l'agent Bob Egan, l'emplacement de ces objets était révélateur.
C'était comme si les objets étaient tombés en séquence. Lorsque l'assaut a eu lieu, Joanne marchait. Ou alors elle courait en direction opposée de son assaillant et allait échapper ses objets.
Le meurtrier semblait avoir conduit jusqu'au bout du chemin et forcé Joanne à marcher les 20 derniers mètres. les experts mirent 15 heures à fouiller le secteur. Il n'y avait aucune empreinte digitale ou trace de pas, ni aucune douille ou arme du crime. Ils recueillirent les feuilles et la terre sous les corps et les envoyèrent au laboratoire pour analyse. Ils espéraient que ces débris apporteraient des réponses. Pour le major Robert Wirtz et ses collègues qui travaillaient sur le cas depuis 4 mois, la vue de ce meurtre brutal était pénible.
Lorsque nous avons trouvé ces corps, il y a eu un moment où cela a été difficile pour les agents assignés à cette enquête. Ils en étaient très affectés. C'était dur à vivre. Je crois que nous avions encore l'espoir de la trouver en vie.
La mystérieuse disparition était maintenant officiellement devenue un cas d'homicide. L'affaire était sous la juridiction de la police d'État, mais le FBI continuait d'apporter son aide.
Hello, Linda. Dave Rowe here. The fact that somebody would abduct a new mother.
Le fait qu'un individu enlève une jeune mère et son enfant de 4 mois avait eu pour effet que tout le monde s'identifiait à cette affaire et voulait participer à l'enquête.
You want to be part of the investigation.
Une autopsie révéla que Joanne avait reçu un projectile de calibre 22 et qu'elle avait été frappée 19 fois avec un objet contondant. Le fait qu'elle ait été victime de deux sortes d'attaques était un indice précieux pour l'agent Joe Kosvar.
Il n'y avait aucune douille et la victime avait reçu un projectile en plus des nombreux coups au visage. Cela pouvait signifier que l'arme à feu avait mal fonctionné.
Le médecin légiste fut incapable de déterminer précisément la cause de la mort du bébé. Il pouvait avoir été étouffé ou simplement exposé aux éléments. La police poursuivait l'analyse des indices découverts sur la scène du crime. Pour consolider leur enquête, les agents firent appel au procureur Mike McIntyre du bureau de Lehigh County.
Nous avons découvert deux cheveux de la même couleur et de la même longueur que ceux qui avaient été prélevés sur l'appui-tête.
Ces cheveux devraient faire l'objet d'un examen plus poussé pour déterminer s'ils étaient identiques. Une experte du service judiciaire de la police de Pennsylvanie effectuait les analyses. Les résultats confirmèrent ce que les détectives soupçonnaient déjà. Les cheveux provenaient de la même personne. La substance découverte sur l'un d'eux était effectivement du sang. L'ADN de ce sang était celui de Joanne. Mais à qui ces cheveux appartenaient-ils au juste? Grâce à d'autres analyses, on put déterminer qu'ils ne provenaient ni des Katrinak, ni des amis de Joanne qui avaient accès à son véhicule. Les agents de la police de Pennsylvanie étaient déroutés. Ils firent de nouveau appel au FBI. Un expert du service des études comportementales de Washington rencontra les détectives au sujet de la disparition de Joanne Katrinak. Ce dernier pourrait dresser un portrait du tueur en examinant les caractéristiques du crime. Les enquêteurs commencèrent par montrer à l'expert l'endroit où les corps avaient été découverts. Ce dernier se mit tout de suite au travail. Le secteur était éloigné de l'endroit où l'enlèvement avait eu lieu. Cela signifiait que le meurtrier était déjà venu à cet endroit. De plus, il s'agissait d'un homme car l'attaque avait été brutale. L'enlèvement s'était produit en plein jour, ce qui donnait un autre indice. Le meurtrier ne trouvait donc pas dangereux d'être aperçu par quiconque dans la petite ville de Catasauqua. C'était aussi quelqu'un qui semblait connaître les habitudes de la famille Katrinak et le plan de la maison. Grâce à ce portrait, les détectives pourraient peut-être donner un second souffle à l'enquête. Mais la police d'État devait trouver un suspect dont la description correspondait au portrait. Les agents conduisirent Andy à Heidelberg, près de l'endroit où les corps avaient été découverts. Ils espéraient ainsi éveiller des souvenirs et voir s'ils connaissaient quelqu'un dans ce secteur rural. On lui demanda si Joanne était déjà venue à cet endroit, si un ami ou un membre de sa famille vivait dans les environs. Mais selon Andy, il n'y en avait aucun. Les enquêteurs étaient déçus. Ils s'apprêtaient à retourner au quartier général. Alors qu'ils partaient, Andy se rappela qu'il connaissait bien quelqu'un qui vivait à Heidelberg et qui avait déjà vu sa maison à Catasauqua. Son ex-petit ami Pat Rohrer s'était déjà occupé d'une écurie à Heidelberg.
Il ne pouvait pas me dire exactement à quel endroit parce qu'il ne se rappelait plus le nom, mais il m'a dit qu'il pouvait m'y conduire. Je lui ai dit « Ok, montrez-moi ». Quand il a commencé à m'expliquer le chemin pour me rendre à l'endroit où Pat s'occupait des chevaux, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait du même endroit où Joanne et le bébé avaient été découverts.
Pat Rohrer et Andy avaient vécu pendant une courte période ensemble en Pennsylvanie. Andy déclara au détective qu'il était allé une fois la voir à l'écurie. Ils s'étaient séparés en 1989 et elle était retournée vivre en Caroline du Nord. Puis au printemps 1991, avant qu'Andy ne rencontre Joanne, Pat lui avait rendu visite suite à une dispute qu'elle avait eue avec son dernier petit ami. Andy avait été compréhensif. Il avait permis à Rohrer de rester chez lui pendant quelques jours. Leur relation était strictement amicale. Elle était ensuite retournée en Caroline du Nord. Peu de temps après, il avait rencontré Joanne. Cela avait été le coup de foudre immédiat. Ils s'étaient mariés au printemps 1993. Ils voulaient tous deux avoir des enfants. Moins d'un an plus tard, Joanne était enceinte. Alex était né au mois d'août 1994. Andy raconta aux enquêteurs ce qui s'était produit trois jours avant la disparition de sa femme et de son bébé. Le 12 décembre, Joanne avait répondu au téléphone. Pat Rohrer était au bout du fil. Joanne lui annonça vertement que Andy était maintenant marié et père de famille. Elle dit à Rohrer de cesser d'appeler. Elle avait ensuite raccroché. Les détectives tournèrent ensuite leur attention vers l'ex-petit ami d'Andy Katrinak, Pat Rohrer. Ce n'était pas le suspect idéal. Elle était brune et non blonde. De plus, elle ne correspondait pas au profil de l'expert du FBI. C'était une femme. Par contre, elle connaissait bien l'endroit où la victime avait été enlevée et le secteur de la scène du crime. L'agent Joe Kosovar se rappela alors qu'il avait déjà travaillé sur un cas qui présentait des similitudes. Il appela l'agent spécial Dave Rowe.
Joe Kosovar s'est souvenu qu'il avait enquêté sur un homicide quelques années plus tôt et que la cause de la mort était attribuable à des coups à la tête à l'aide d'un objet contondant. On avait alors déterminé que l'assaillant était une femme. Ce qu'un homme peut accomplir avec un, deux ou trois coups, une femme doit en donner 15, 20 ou 25 pour obtenir le même résultat.
Joanne Katrinak avait reçu 19 coups. Mais était-il possible qu'une femme ait été son assaillant? En mai 1995, soit six mois après les meurtres, les agents Bob Egan et Joe Kosovar se rendirent en Caroline du Nord. Le FBI organisa une rencontre entre eux et les policiers du bureau du shérif de Lexington County. Ils projetaient d'interroger Pat Rohrer au bureau de son avocat. La mère de Rohrer devait également s'y trouver. La jeune femme parla à nouveau de ses alibis. Le 15 décembre, le jour du crime, elle était allée dans un salon de bronzage près de chez elle. Dans la soirée, elle était allée à son cours de danse du jeudi, comme d'habitude, au Cowboys Nightlife Bar. Elle reconnut qu'elle avait bien travaillé à l'écurie de Heidelberg, mais déclara qu'elle n'était pas retournée en Pennsylvanie depuis sa dispute avec son petit ami. Elle jura qu'elle ne possédait pas d'armes à feu. Le lieutenant Tony Roberson de Lexington County travailla avec le FBI et les agents de Pennsylvanie pour vérifier ses déclarations.
La première chose qu'ils voulaient faire était de faire tomber ses alibis. Ils voulaient savoir s'ils pouvaient les corroborer ou si l'on découvrirait qu'ils n'avaient aucune valeur.
Les enquêteurs visitèrent le salon de bronzage où Rohrer avait déclaré être allé le jour des meurtres. Le procureur Mac McIntyre nous explique.
La propriétaire du salon, Mme Simerson, nous a dit que quelque chose clochait, parce que le jour où Pat Rohrer avait dit y être allé, le salon était fermé parce que c'était l'anniversaire de son mari. Ils étaient allés faire des courses dans un centre commercial à 80 km de là. Elle avait même des reçus du centre pour me le prouver.
Au Cowboys Nightlife Bar, le professeur de danse connaissait bien Rohrer. La feuille de présence du club démontrait qu'elle avait bien été présente au cours du jeudi 8 décembre et à celui du 22 décembre, mais non à celui du 15 décembre. Les enquêteurs examinèrent les relevés téléphoniques de Rohrer. Elle avait fait des téléphones tous les jours, sauf au cours de la période du 12 au 15 décembre. Rohrer était incapable de prouver qu'elle était en Caroline du Nord le jour où les meurtres avaient été commis. De plus, elle avait des antécédents judiciaires.
Elle avait eu des tendances violentes par le passé. Elle avait été accusée dans un comté voisin à Forsyth. Elle s'était battue à propos d'un homme dans un bar et avait été arrêtée.
Mais il manquait toujours un indice important aux enquêteurs. L'arme du crime. Rohrer avait déclaré ne pas posséder d'arme à feu. Les détectives poursuivirent leurs recherches. Dans une écurie de Caroline du Nord, ils rencontrèrent un autre de ses ex-petits amis. Il s'appelait Walter Blaylock. Ce dernier déclara que Rohrer avait fait l'acquisition d'un pistolet pour la somme de $50 lors d'une braderie. C'était un Jennings de calibre 22. Il s'en était servi pour des exercices de tir dans le jardin de Rohrer. La dernière fois qu'il avait vu cette arme, c'était au cours d'une violente dispute. Blaylock déclara à l'agent Egan que cette arme avait un défaut.
Ce pistolet était une arme de mauvaise qualité. Le genre d'arme qui bloque après un premier tir, de sorte qu'on ne peut tirer un deuxième coup. Cela corroborait l'hypothèse selon laquelle la victime avait reçu plusieurs coups à la tête après avoir reçu un premier coup de pistolet.
Le FBI aida les divers services de police à obtenir un mandat de perquisition de la maison de Rohrer en Caroline du Nord. Leur but, retrouver l'arme présumée du crime. Ils se rendirent chez elle le 24 juillet 1995. Malgré une fouille méticuleuse, on ne retrouva pas l'arme. Cependant, il y avait de nombreuses douilles dans le jardin de la suspecte. Lorsque les policiers mentionnèrent à Rohrer qu'il savait qu'elle possédait un pistolet, elle passa aux aveux. Mais selon elle, Blaylock était parti avec l'arme lorsqu'il l'avait quittée. C'était environ un mois avant les meurtres. Les indices s'accumulaient contre Rohrer. Malheureusement, c'était des preuves indirectes. Ce qui était étrange, c'est que les cheveux blonds découverts dans le véhicule de la victime ne correspondaient pas à ceux de la suspecte. Les cheveux étaient blonds clairs, alors que ceux de Pat Rohrer étaient bruns. L'agent Joe Kosvar se demandait s'il était possible qu'elle les ait éteints au moment des meurtres. Il apprit que peu de temps avant les homicides, Rohrer avait participé à un rodéo et remporté le premier prix. Il téléphona aux organisateurs de l'événement en espérant qu'une photo avait été prise d'elle à cette occasion. Il fut récompensé pour son intuition. On lui envoya une photo. Comme il l'avait deviné, les cheveux de Rohrer étaient alors blonds.
Nous avons remis cette photo au personnel du laboratoire judiciaire et on l'a comparée aux cheveux trouvés dans le véhicule. Nous avons décidé de procéder à des analyses plus poussées.
Les détectives obtinrent un mandat pour recueillir des échantillons de sang et de cheveux de Pat Rohrer. Si les experts parvenaient à établir une corrélation entre ses cheveux et ceux du véhicule de Joanne et de la scène du crime, on pourrait procéder à une arrestation. Malheureusement, les experts devaient faire appel à une technique si récente qu'il leur faudrait un an pour obtenir l'autorisation. Entre-temps, le suspect numéro 1 d'un double homicide était toujours en liberté. Après une enquête qui s'était échelonnée sur presque un an, les détectives disposaient enfin d'un suspect important dans le double homicide de Joanne Katrinak et de son bébé Alex. Grâce à un mandat, ils purent obtenir des échantillons de sang et de cheveux de Pat Rohrer, l'ex-petit ami d'Andy, le mari de la victime. Rohrer était enceinte de son petit ami actuel. Les experts judiciaires allaient tenter d'établir un lien entre les échantillons de ses cheveux et ceux qui provenaient de la scène du crime. Au laboratoire judiciaire de Pennsylvanie, on put déterminer que les cheveux de Rohrer présentaient des similitudes à ceux qui avaient été recueillis. Mais les enquêteurs espéraient en faire la preuve formelle en procédant à des analyses génétiques. L'ADN fut extrait de l'échantillon sanguin de Rohrer. Il fut ensuite comparé à celui des cheveux de la scène du crime. Malheureusement, cette analyse était délicate. Joseph DeZinno, chef de division du service d'analyse génétique du FBI, nous explique pourquoi.
Les cheveux que l'on trouve sur une scène de crime sont naturellement tombés et il n'y a pas beaucoup de tissu au niveau de la racine. Cela signifie qu'il est plus difficile d'en extraire l'ADN. Par expérience, nous savons que l'analyse d'ADN peut échouer.
Dans ce cas-ci, seulement un cheveu découvert sur la scène contenait suffisamment de tissu pour procéder à ce type d'analyse. Mais les risques étaient élevés, puisque cela signifiait que l'échantillon serait détruit. Si cette analyse n'était pas concluante, il serait impossible de répéter l'opération. Il fallait trouver une autre façon d'analyser les cheveux malgré l'absence de tissu humain. Une solution était peut-être en train de naître dans les laboratoires du FBI à Washington. L'analyse de l'ADN mitochondrial.
C'était inédit. À ma connaissance, c'était le premier laboratoire judiciaire aux États-Unis qui avait recours à ce type d'analyse.
Cette technique en était toutefois à ses premiers balbutiements et il faudrait plus d'un an pour s'assurer de la validité scientifique des résultats. Pour l'analyse de l'ADN mitochondrial, on examine l'ADN contenu dans les mitochondries ou organelles. Comme il y a davantage de ce type d'ADN que d'ADN nucléaire dans les cellules des cheveux, il est plus facile à extraire. Les experts disposaient de 5 cheveux. Ils pourraient donc répéter l'analyse et ainsi obtenir des résultats plus concluants.
Avec l'analyse de l'ADN mitochondrial, nous avons 90% de chances d'obtenir de l'ADN à partir de cheveux qui sont tombés naturellement, c'est-à-dire où il n'y a pas de racines. De plus, nous n'avons besoin que d'environ 2 cm de ce cheveu pour obtenir des résultats.
Il faut d'abord isoler la séquence d'ADN dans les mitochondries de la cellule du cheveu. On compare ensuite cette séquence à celle obtenue à partir de l'échantillon du suspect. Dans ce cas-ci, il provenait du sang de Pat Rohrer. Les 2 codes génétiques étaient identiques. L'expert judiciaire Joseph DeZinno nous explique.
Si un cheveu provenant de la scène du crime a le même ADN mitochondrial que le sang d'un suspect, cela signifie que le suspect est peut-être la source de l'échantillon de la scène du crime. Donc, Pat Rohrer ne pouvait être éliminé de la liste des suspects.
Malheureusement, sans une confirmation de l'ADN nucléaire, les résultats n'étaient pas absolument certains. les experts devaient maintenant examiner le cheveu qui contenait des tissus et tenter de démontrer qu'il y avait bien une corrélation. Leurs efforts furent couronnés de succès. Il n'y avait aucun doute possible, Pat Rohrer avait laissé ses cheveux. C'était un moment très important de l'enquête. Dans la nuit du 24 juin 1997, les enquêteurs se rendirent chez Rohrer, munis d'un mandat d'arrestation. Une des femmes détectives accompagna Rohrer à l'étage pendant qu'elle préparait sa fillette de 18 mois et qu'elle s'habillait. C'était une précaution de routine, mais cela allait permettre d'obtenir une autre information importante.
Pendant que Pat déposait l'enfant et s'habillait, la détective Susan Pearson était dans la chambre à coucher. Elle a alors entendu ce que Pat disait à son bébé. Le bébé s'appelait Nicole et elle lui a dit « Nicole, si j'avais su que je me ferais prendre, je ne t'aurais jamais mise au monde. » Dès que ça a été possible, Susan Pearson a noté ces paroles qui se sont révélées très incriminantes par la suite.
Plus de 3 ans après le meurtre de Joanne Katrinak et de son bébé, Pat Rohrer fut enfin arrêtée. Elle fut envoyée en Pennsylvanie pour faire face à son accusation. Lors de la préparation du procès, les procureurs procédèrent à la reconstitution des derniers moments de Joanne et Alex Katrinak. Le 15 décembre 1994, Pat Rohrer était entré par effraction dans le sous-sol des Katrinak, sachant qu'Andy était sorti et que Joanne était seule avec le bébé. Joanne n'avait pas la moindre idée que Rohrer était au sous-sol quand elle avait appelé sa belle-mère et préparé Alex pour aller faire des courses. Rohrer avait tout entendu de la conversation. Elle connaissait la maison pour y avoir déjà passé quelque temps 3 ans plus tôt. Elle savait où se trouvaient les 2 lignes téléphoniques et laquelle couper dans l'éventualité où Joanne voudrait appeler à l'aide. Joanne était sortie avec Alex, ignorant toujours que Pat était dans la maison. Pat avait entendu Joanne partir et était sortie pour la rattraper. Joanne n'avait pas vu l'autre femme arriver par derrière avec le pistolet Jennings de calibre 22. Pat avait pris place sur le siège arrière avec le bébé et forcé Joanne à conduire. Joanne était sans doute terrifiée pendant qu'elle conduisait un pistolet sur la tempe. Elle était probablement encore plus terrifiée pour son bébé de 4 mois. Pat avait conduit Joanne à une piste d'équitation isolée à Heidelberg. Pendant que Pat la forçait à pénétrer de plus en plus dans les bois, le hochet et le biberon d'Alex tombèrent par terre. Pat tira un coup de feu, mais son arme s'enraya. C'est alors qu'elle commença à asséner des coups à Joanne. Il est possible qu'elle ait étranglé le bébé ou qu'elle ait simplement laissé mourir de froid. Pat Rohrer avait ensuite garé la voiture à la taverne McCarthy's avant de quitter la Pennsylvanie. La poursuite mit au point une accusation solide grâce aux indices recueillis par les enquêteurs. Les personnes touchées par cette affaire refusaient de laisser cette femme et son enfant sombrer dans l'oubli.
En tant qu'enquêteurs, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'être la voix de la victime, de recueillir les informations et de la représenter, puisqu'elle ne peut plus le faire elle-même.
Le jury trouva Pat Rohrer coupable sous deux chefs d'accusation, enlèvement et meurtre au premier degré. Elle fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête était terminée. Pour les habitants de Catasauqua, le mystère était enfin résolu. Sans les techniques de pointe du laboratoire judiciaire du FBI, la meurtrière serait peut-être toujours en liberté.